Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Comment ça va ?
Bien, toujours dans la joie d'entendre ces paroles du catéchisme.
Oui, surtout autour de l'Esprit Saint, c'est très porteur. On arrive au numéro 729 et il est question de l'origine de l'Esprit. Parce que Jésus va, au moment de sa glorification, va promettre la venue de l'Esprit Saint, et on ne sait plus trop si l'Esprit Saint est donné par le Père ou s'il est donné par Jésus. Est-ce que tu pourrais expliciter ça, nous aider à mieux comprendre ?
Alors, on distingue donc la théologie, c'est-à-dire la vie intime de Dieu, et l'économie. L'économie, c'est la façon dont Dieu réalise ce dessein d'amour bienveillant parmi les hommes et les sauve, puisqu'ils ont commis le péché, et comment il arrive finalement, en leur donnant la grâce, à les restaurer pour qu'ils puissent finalement réaliser ce dessein d'amour. Alors, effectivement, du point de vue de la théologie, c'est-à-dire du mystère intime de Dieu, eh bien, on est arrivé à la conclusion, mais c'est une conclusion théologique, que le Père et le Fils spirent ensemble, comme un simple principe, un unique principe, le Saint-Esprit, en laissant évidemment toujours la première place au Père, puisque le Père est source et fontaine, en quelque sorte, de la divinité. Et du point de vue économique, eh bien, on voit que c'est essentiellement le Fils qui agit et donne le Saint-Esprit au monde. Mais il le demande au Père, toujours. Donc on voit bien qu'il y a une certaine coïncidence entre ce qu'on appelle la Trinité économique et la Trinité immanente. C'est-à-dire que la Trinité économique, ce qui nous est révélé dans ce que Jésus dit dans Saint Jean au chapitre 14, 15, 16, 17, eh bien, correspond bien à ce qui se passe dans l'intime de Dieu.
Ah oui, oui.
Et sinon, on pourrait dire il y a deux théologies différentes. Il y a une théologie économique et puis une théologie immanente. Mais où serait la révélation à ce moment-là ? On serait dans absolument l'incapacité de savoir quoi qu'il soit de ce mystère si il n'y avait pas une certaine correspondance. Je ne dis pas qu'elle est absolue, puisque on reste dans l'ordre créé dans la théologie économique et qu'on est dans l'incréé dans la théologie immanente. Donc on est quand même dans une distance infinie. Mais malgré tout, il y a quand même une correspondance. Sinon, la révélation serait impossible. Il n'y aurait pas de révélation s'il n'y avait pas une certaine correspondance. Alors regardons de plus près. D'abord, rappelons-nous que dans Saint Jean, le Saint-Esprit n'apparaît pas seulement dans les chapitres 14, 15, 16, 17, c'est-à-dire au grand discours au moment de la scène, au moment des adieux, au moment où Jésus va laver les pieds de ses disciples et aller vers sa passion. Il y a déjà des annonces du Saint-Esprit, par exemple dans le discours avec Nicodème, eh bien, il y a cette certitude que le Saint-Esprit, le vent, souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Donc Jésus désigne bien le moyen économique. C'est la naissance par le Saint-Esprit.
Par le Saint-Esprit. Hein?
Et puis un peu plus tard, avec la Samaritaine, eh bien, pareil, il annonce une eau vivifiante et Jésus dit que cette eau vivifiante ne donnera plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Et la pauvre Samaritaine, elle comprend ça d'une manière très horizontale. Elle croit qu'il va lui faire un miracle permanent comme leur père Jacob sur ce puits. Et donc Jésus évidemment la reprend et lui dit clairement, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils doivent l'adorer. Donc il la reprend d'abord du point de vue, je dirais, de l'unité de Dieu, parce que là le mot esprit évidemment est pris au sens, je dirais, de ce qui est commun dans la théologie immanente. Et c'est après qu'il va y avoir donc cette révélation au chapitre 14 que vraiment le Saint-Esprit est annoncé, hein, mais le paraclet est-il dit au verset 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc c'est bien Jésus qui l'envoie, puisque s'il est envoyé en son nom, mais l'origine est bien le Père, hein, puisque il est dit, le Père enverra en mon nom le paraclet. Et le paraclet, c'est donc un autre nom du Saint-Esprit, on l'avait vu, c'est-à-dire l'avocat, le protecteur, le consolateur. Hein. Et un petit peu plus loin, eh bien, il y a une précision sur cette origine, puisque il nous est dit, toujours dans ce chapitre 15, au verset 26, « Lorsque viendra le Saint-Esprit, que je vous enverrai d'auprès du Père, hein, et c'est à ce moment-là qu'on nous donne l'origine du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, donc c'est l'Esprit du Fils, puisque Jésus a dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie » juste avant, l'Esprit de vérité qui vient du Père, alors c'est traduit d'une manière économique, mais les pères du Concile de Constantinople ont vu dans ce mot économique une allusion au mystère immanent, et on traduit qu'il procède du Père. Hein. Donc l'Esprit de vérité qui procède du Père, il me rendra témoignage. Donc c'est vrai que d'un point de vue de l'Écriture, eh bien, l'Esprit Saint est vraiment annoncé dans son origine toute première. C'est le Père qui est l'origine toute première du Saint-Esprit, mais nous savons que ce mot, donc, qui est utilisé « ec porestai » dans ce passage, qui est traduit ici « procède », eh bien, on le retrouve au chapitre 21 de l'Apocalypse, et 22, pardon, « L'ange me montra le fleuve de vie », et en Jean chapitre 7, Jésus avait annoncé ce fleuve de vie. Et donc il ne faut jamais oublier qu'il a déjà été désigné comme étant un symbole de l'Écriture. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Donc c'est très nettement ce fleuve de vie. C'est l'Esprit Saint, Jean chapitre 7. Et donc, comme on pense que l'Apocalypse a été écrite par Saint Jean lui-même, eh bien, il y a une correspondance tout à fait éminente, évidemment, entre ce passage de Jean chapitre 7 et ce passage de l'Apocalypse verset 22, du chapitre 22 verset 1. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Et bien, le mot « jaillir » ici, c'est le même mot que Jean chapitre 15 qu'on vient de voir, c'est le mot « ek porestai », c'est-à-dire c'est la procession.
La procession,
Et c'est extraordinaire. Donc on pourrait traduire très bien donc, le fleuve de vie limpide comme du cristal qui procédait du trône de Dieu. Et qui c'est ce trône de Dieu, surtout quand on met « otéos », le Dieu, c'est toujours le Père. Et de l'agneau, et l'agneau, évidemment, c'est le Fils. Donc on a une preuve du fait que d'un point de vue immanent, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils.
Avec tous ces passages, on repère bien que l'Esprit est Dieu, qu'il est une personne aussi, puisqu'il a une forme d'autonomie, d'intelligence, et qu'il va, qu'il est appelé à agir aussi. Le Fils a agi d'une certaine manière, et l'Esprit est appelé à agir, parce qu'il est envoyé d'auprès du Père, mais sur nous, pour nous, pour nous aider. Donc il y a une autonomie de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas simplement un esprit vague de Jésus, c'est une personne à part entière et qui agit en son nom. Est-ce que il y a une question pas facile du tout, au numéro 729, il est question de ce sujet. Quant au monde, il le confondra en matière de péché, de justice et de jugement.
Oui, c'est une question un peu difficile, et même le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Dominum et Vivantem, qui était une encyclique sur le Saint-Esprit, reconnaît que l'expression ne sonne pas, je dirais, d'une manière facile. Et voilà le commentaire qu'il donne, et peut-être nous allons finir avec cette explication de Saint Jean-Paul II. C'est pas rien, c'est un pape, un saint qui parle, le grand Jean-Paul II, comme on l'appelait, et voilà ce qu'il dit. Jésus, pendant son discours au Cénacle, annonce la venue de l'Esprit-Saint au prix de son propre départ, et il promet « Si je pars, je vous l'enverrai ». Mais dans ce même contexte, il ajoute « Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. » Et le pape commente « Le paraclet lui-même, l'esprit de vérité promis comme celui qui enseignera et rappellera, comme celui qui rendra témoignage, comme celui qui introduira dans la vérité tout entière, est maintenant annoncé par les paroles que nous venons de citer comme celui qui établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. Le contexte, dit Jean-Paul II, semble déjà significatif. Jésus relie cette annonce de la venue de l'Esprit-Saint aux paroles qui indiquent son départ par la croix et qui en soulignent même la nécessité. Mais ce qui compte le plus, c'est l'explication que Jésus ajoute lui-même à ces trois mots, péché, justice, jugement. Il dit en effet, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Dans la pensée de Jésus, le péché, la justice, le jugement ont un sens bien précis, différent de celui que l'on aurait peut-être tendance à attribuer à ces mots, indépendamment de l'explication donnée par celui qui parle. Voilà le point névralgique de Jean-Paul II. Cette explication indique aussi comment il faut comprendre l'expression « établir la culpabilité du monde » qui est propre à l'action de l'Esprit-Saint. Et ici, le sens de chaque mot importe, aussi le fait que Jésus les a unis entre eux dans la même phrase. Le péché dans ce texte signifie l'incrédulité que Jésus rencontre parmi les siens, à commencer par ses concitoyens de Nazareth. Et voilà donc une belle explication.
Merci frère Édouard, à bientôt.
À bientôt.